Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 10h. On retrouve le journal de Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Michel, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la une. L'exode de la population kurde au nord-est de la Syrie où la Turquie a intensifié son offensive. Dans ce journal également, la privatisation de la Française des Jeux, ce sera pour le 7 novembre et le grand public pourra y investir. Les taxes d'habitation sont arrivées dans les boîtes aux lettres avec une mauvaise surprise pour certains foyers. Son montant ne diminue pas, au contraire. Et puis les sports, victoire de Bottas ce matin au Grand Prix de Formule 1 du Japon. En football, l'équipe de France pense ses plaies après sa victoire en Islande. La météo de Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Un petit peu de pluie au nord-ouest, sinon c'est plutôt beau.
C'est ça, la pointe bretonne connaît déjà des pluies depuis quelques heures. Ça va être le cas pratiquement toute la journée. Des pluies qui vont concerner tout le quart nord-ouest d'ici la fin de l'après-midi. Elles avancent assez lentement. À côté de ça, on a quand même pas mal de soleil sur le reste du territoire. Il y aura de l'instabilité en Roussillon, un petit peu vers les frontières du nord ce matin. Ça va filer rapidement. Et on notera 2-3 averses également sur la montagne corse. Tout cela associé à un vent de secteur sud assez fort, et c'est d'ailleurs pour ça que les températures seront très douces. 19 degrés à Caen cet après-midi, 20 degrés sur Dunkerque, 23 à Nice comme à Saint-Étienne, 24 degrés à Paris, comptez 27 à Bourges, 29 degrés à Bordeaux et un bon 31 à Mont-de-Marsan.
Merci Valérie.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
Et justement, avec ces conditions quasi estivales, peut-être allez-vous profiter de ce dimanche au bord de la mer. Si c'est le cas sur la côte atlantique, la plus grande prudence est conseillée en Gironde. Plusieurs personnes se sont en effet noyées depuis le début de la semaine dans les Landes, Jean-Marc Terrier.
C'est un homme de 64 ans qui s'est noyé hier en début d'après-midi entre Lacanau et Carcan-Maubuisson. Quelques heures plus tard, c'est un septuagénaire qui n'a pu être ranimé à quelques kilomètres de là. Avec une météo quasi estivale, les plages de l'océan se remplissent comme à la pleine saison. Mais ces espaces de baignade ne sont plus surveillés depuis la fin août et les dangers sont toujours là. En particulier, les fameux courants de baïnes qui emportent les baigneurs imprudents et qui ne leur laissent quasiment aucune chance. Ces courants, cumulés actuellement à une forte houle, ne peuvent qu'inciter à la prudence. Une prise de risque inutile qui a également coûté la vie à une jeune nageuse de 25 ans. Elle s'est noyée jeudi soir sur la plage de Carcan, dans le nord Gironde.
Les précisions de Jean-Marc Terrier en Gironde, donc pour RTL. RTL 10h02, c'est une première mesure de rétorsion après l'offensive de la Turquie dans le nord-est de la Syrie. La France a en effet décidé de cesser de vendre des armes à Ankara. L'Allemagne avait fait de même quelques heures plus tôt. Des annonces qui n'ont pas modifié la stratégie du président Erdogan. Les combats se sont intensifiés depuis quelques heures autour de la ville de Ras Al Ain. 38 civils et 81 combattants kurdes ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La population, elle, est obligée de fuir vers l'Est. Wilson Fash a vécu cet exode vers l'Est, à côté de cette population.
Ils sont quelques centaines à se presser contre les portes closes du poste frontière qui sépare la Syrie de l'Irak. Enfants en pleurs, vieillards portés par leurs cannes, tous ont fui les affrontements entre forces kurdes et turques dans le nord syrien. Mariam Ibrahim a 60 ans. Elle espère traverser la rivière qui fait office de frontière et trouver refuge en Irak.
Je ne peux plus pleurer, je n'ai plus de larmes. Je ne veux pas marcher. Je veux simplement que Dieu arrête cette guerre. Nous n'avons rien fait de mal, nous souhaitons seulement vivre dans notre patrie. Il y a eu tellement de morts déjà. Il faut que la communauté internationale intervienne, mais je crois que nous n'avons que des ennemis. C'est l'opinion de la vieille femme que je suis.
À Kamishli, capitale de la région kurde syrienne, les rues habituellement noires de monde sont désormais vides. Cette partie de la Syrie avait été jusqu'ici relativement épargnée par le conflit syrien, même pendant la guerre contre le groupe État islamique. Mais désormais, la guerre est à leurs portes. L'hôpital de la ville accueille les civils blessés dans les affrontements. Massoud Ali Merdi a eu l'abdomen transpercé dans une explosion.
Pendant la guerre contre Daesh, ils étaient toujours assez loin d'ici. Mais maintenant, l'armée turque est juste à côté. C'est pour ça qu'on a peur. Nos combattants ont donné leur vie pour vaincre les djihadistes. Et maintenant, Erdogan est là pour nous achever.
Si le désespoir avait une odeur, il sentirait sans doute comme les couloirs de l'hôpital de Kamishli. Ici, tous font écho aux propos de ce blessé. Le sentiment d'abandon est immense.
Le reportage de Wilson Fash à la frontière entre la Syrie et l'Irak pour RTL. À l'étranger toujours, le bilan du passage du typhon Agibis au Japon s'est alourdi cette nuit. On compte 14 morts et plus d'une douzaine de disparus. Bilan malheureusement provisoire. En France, elle était promise par le gouvernement. Elle sera concrète dans moins de 2 mois. Je veux parler de la privatisation de la Française des Jeux. Bruno Le Maire annonce ce matin dans le journal du dimanche que la souscription des investisseurs et du grand public se déroulera du 7 au 20 novembre. Les particuliers ont-ils intérêt à franchir le pas? Le syndrome Eurotunnel est-il évacué? La réponse de Pierre-Henri Leroy, président de la société Proxinvest.
C'est relativement sans risque parce que chacun sait que les casinos gagnent toujours. Donc c'est très bon pour le propriétaire, c'est pas bon pour le joueur. Quelque part, associer la démarche d'actionnariat particulier à une démarche très spéculative et d'arnaque publique, je trouve ça malheureux. Voilà. Le gouvernement ne fait pas l'effort sur Aéroports de Paris ou sur Renault, qui sont des boîtes vraiment intéressantes et vraiment productives, qui innovent. Voilà des boîtes sur lesquelles il faudrait que l'État se mobilise pour vendre le truc et expliquer aux Français que c'est là-dedans qu'il faut investir. Et je trouve ça un petit peu maladroit de prendre comme premier outil de popularisation de l'actionnariat la Française des Jeux, parce que je trouve que c'est pas brillant.
Pierre-Henri Leroy, le président de Proxinvest, a joint pour RTL par Adeline Courson. L'État actionnaire majoritaire à 72% actuellement deviendra minoritaire à hauteur de 20% au minimum. C'est un dimanche d'élection chez les Républicains. Tombé à 8% lors des dernières européennes, le parti doit se donner un nouveau chef. 130 000 adhérents sont donc invités à voter par scrutin électronique pour tourner la page de Laurent Wauquiez. Les résultats de ce premier tour seront annoncés ce soir à 20h30. Les trois candidats sont Christian Jacob, l'actuel président du groupe LR à l'Assemblée, les députés Guillaume Larrivé et Julien Aubert. Pas de tête d'affiche, nous expliquait ce matin le sénateur Roger Karoutchi, car le nouveau président ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Faut-il donc s'attendre à une faible participation? Eh bien, la question sera posée à Jean-Pierre Raffarin. Benjamin Sportouche, bonjour.
Bonjour à tous.
L'ancien Premier ministre sera votre invité dans le grand jury RTL, le Figaro LCI. Alors lui a dit qu'il ne votera pas.
Ah oui, il ne votera pas. Mais alors maintenant, la question suivante, c'est va-t-il franchir un pas supplémentaire? Va-t-il quitter les Républicains? Parce qu'il faut dire qu'il n'a plus grand-chose, cet ancien Premier ministre de Jacques Chirac, en commun avec la droite actuelle. Ces derniers mois d'ailleurs, il n'a eu de cesse de se rapprocher du chef de l'État. Alors va-t-il donc franchir le Rubicon? On lui posera la question, peut-être même rejoindre En Marche. Et puis bien sûr, on reviendra sur l'actualité avec lui, l'actualité sanglante de la semaine dernière avec l'attentat à la préfecture de Paris. Que pense-t-il de la gestion de cet attentat par le gouvernement? Estime-t-il qu'Emmanuel Macron est sorti de sa naïveté sur l'islamisme radical, comme l'affirme ce matin Xavier Bertrand dans les colonnes du journal du dimanche? Que pense Jean-Pierre Raffarin de la société de vigilance prônée par Emmanuel Macron contre l'hydre islamiste, comme il l'a appelé? Et puis, on parlera du monde, des affaires du monde. On le sait, Jean-Pierre Raffarin est un ami de la Chine, mais cette amitié n'est-elle pas gênante, dérangeante, quand on voit ce qui se passe à Hong Kong avec la répression en cours? Voilà, je vous dis à tout à l'heure, midi, pour le grand jury de Jean-Pierre Raffarin.
Merci beaucoup, Benjamin Sportouche. Une pause dans ce journal de 10 heures, avant d'évoquer les perdants et les gagnants de la taxe d'habitation, et puis les bleus du football qui préparent leur duel contre la Turquie. Demain soir, à tout de suite.
RTL, le 10h, avec Yann Bouchery.
Le mois d'octobre est arrivé et avec lui la traditionnelle saisonnalité des impôts locaux. Vous l'avez constaté, d'abord la taxe foncière dans les boîtes aux lettres, puis la taxe d'habitation dont 80% de la population sera exonérée l'an prochain. Pour les 20 autres %, il faudra attendre 2023. Mais dès cette année, mauvaise surprise pour 4% des foyers qui vont voir leur taxe d'habitation augmenter alors qu'elle devait baisser de 30%. Les explications avec vous, Martial Liu.
Oui, gagnant l'an dernier et perdant cette année. Il faisait partie des 80% de la population qui avait vu leur taxe d'habitation baisser de 30% pour la première année. Le public concerné est un célibataire qui gagne moins de 3000 euros par mois ou un couple qui gagne moins de 3800 euros. Cette année, il pouvait espérer une ristourne de 65% du montant de la taxe, en moyenne 555 euros. Seulement voilà, 800 000 d'entre eux sont passés dans la catégorie supérieure, celle des 20% qui n'ont pas le droit à la mesure. Soit ils gagnent beaucoup mieux leur vie depuis, soit un enfant a quitté la maison et le foyer fiscal n'est plus le même, soit la personne célibataire s'est mise en couple et ce sont les revenus du foyer qui sont pris en compte. Dans l'autre sens, il y a aussi des contribuables dont la situation s'est un peu dégradée ou qui ont un enfant de plus depuis l'année dernière et qui vont voir leur taxe d'habitation chuter de 65% d'un coup. Selon Bercy, ce sera donc à peu près la même proportion. Il faut surveiller sa taxe cette année, car au final, la situation va fortement changer pour 1,5 million de foyers français concernant la taxe d'habitation.
Merci Martial Liu, et pour tout comprendre, dossier complet, retrouvez ce soir sur M6 dans l'émission Capital qui est consacrée donc à la fiscalité locale. RTL, 10h et 11 minutes. Les sports à présent et la Formule 1 avec la victoire de Valtteri Bottas ce matin au Grand Prix de Suzuka au Japon. Le Finlandais s'est imposé devant l'Allemand Sébastien Vettel sur Ferrari et son coéquipier britannique Lewis Hamilton, son coéquipier chez Mercedes. Les Flèches d'Argent s'offrent un 6e titre mondial consécutif chez les constructeurs. Pierre Gasly, lui, est rentré dans les points à la 8e place. Le football à présent, l'Italie s'est qualifiée pour l'Euro 2020 en dominant la Grèce 2-0 hier. La France pourrait en faire de même à condition de vaincre la Turquie demain soir à Paris. Mais il faut retrouver des forces après l'Islande, Philippe Sanforge.
Oui, depuis 24 heures, les kinés et toute l'équipe médicale du docteur Le Gall sont à pied d'œuvre pour soulager des corps endoloris par cette victorieuse mais rude joute islandaise. Le buteur Olivier Giroud, au chômage technique avec son club de Chelsea, se dit prêt à enchaîner demain contre la Turquie.
Oui, bien sûr. Je me sens très bien physiquement. Encore une fois, je bosse beaucoup à Chelsea. J'hésite pas à faire un peu aussi de rap. J'en ai fait cette semaine, donc je suis demandeur. Je connais mon corps et j'ai assez d'expérience aujourd'hui pour savoir ce que j'ai à faire pour être prêt. Et lundi, il n'y aura pas de souci.
Grasse matinée hier, retour d'Islande hier soir, directement à Enghien-les-Bains, sans passer par la case Clairefontaine pour optimiser le temps de récupération. Blaise Matuidi serre les dents. Mais le jeu en vaut la chandelle.
Oui, bien sûr. C'est des moments où il faut oublier la fatigue et se concentrer sur ce qu'on a à faire. C'est la dernière marche et on a envie de bien conclure à la maison. Ce serait top de finir par une victoire et de se qualifier à la maison.
Avec le retour espéré de N'Golo Kanté, ménagé à Reykjavik pour cause de gêne musculaire. Et Lucas Hernandez en délicatesse avec son genou, mais surmotivé par la perspective de la qualification.
Philippe Sanfourche. Et demain, la France accueillera la Turquie à Paris en présence probable de 40 000 supporters turcs, ce qui inquiète les autorités au vu du contexte international. L'UEFA va par ailleurs lancer une enquête après la victoire de la Turquie 1-0 contre l'Albanie vendredi. Les joueurs turcs auraient célébré leur but en effectuant un salut militaire. À la Coupe du monde de rugby, les Tonga ont battu les États-Unis 31-19 ce matin. À suivre, Galles-Uruguay à 10h15. Le Pays de Galles, adversaire des Bleus en cas de victoire en quart de finale. Et puis Japon-Écosse à 12h45, puisque le match a été maintenu malgré le passage du typhon Agibis. Namibie-Canada, en revanche, a été annulé. Un mot du top 14, avec à suivre aujourd'hui la Lanterne Rouge, le Stade français qui reçoit Toulon à 16h50, et puis Bordeaux-Bègles qui accueille Clermont à 21h. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Auteuil. Les pronostics de Claude Pierre-Santi. L'As, le 2, le 9, le 5, le 6... Le 8, le 15, le 7. La dernière minute, c'est le numéro 9. La course du Quintet à suivre sur 6play.fr. Départ à 15h15 précise. RTL 10h et 14 minutes. Merci de nous avoir suivis depuis 7h ce matin, depuis peut-être même avant. Auquel cas, eh bien, vous allez retrouver avec grand plaisir l'ami Vincent Perrault.
Espérons-le. C'est vrai que ça me ferait plaisir qu'on me retrouve avec grand plaisir, hein, d'un certain côté.
Évidemment.
Donc,
évidemment.
Au moins, laissez-moi le croire. Voilà. Pour le reste, on verra bien.
À tout à l'heure.
Merci, Yann. À tout à l'heure, 11h pour votre journal.